Saint-Simon, le terrible petit duc, par Jules Chancel. Ce mousquetaire écrivain, ce duc et père libelliste, qui pendant 30 ans eut le courage et la persévérance de noter, en quelque sorte, heure par heure, tous les événements, tous les travers, les grandeurs comme les turpitudes, de cette cour au milieu de laquelle il vivait, ce véritable précurseur du journaliste moderne, est un des plus curieux exemples de vocation que l'on puisse trouver. Rien, en effet, ne le destinait à cette carrière d'écrivain, de mémorialiste, et tout semblait, au contraire, l'en écarter. Son titre, sa situation sociale, son métier, l'attiraient vers d'autres destinées plus faciles, et cependant, à 18 ans, il commençait à écrire les dessous de la bataille de Neerwinden, à laquelle il avait pris part, et n'oubliait pas de signaler les faiblesses de ce grand homme de guerre, le maréchal de Luxembourg, son chef. Depuis ce moment, il nota jusqu'à sa mort. Ses écrits, il ne songea pas d'abord à les publier, il notait par besoin. Et tous les grands de la terre tremblaient devant la menace occulte de celui qu'on appelait le terrible petit duc. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, naquit à Paris le 16 janvier 1675. Son père était un de ces gentilshommes puissants, riches, à qui devait automatiquement revenir emploi choisi et honneur, pourvu qu'il se montre habile courtisan. Mais le vieux duc n'était pas courtisan. Il osa tenir tête à Richelieu et, à l'âge de 31 ans, quittait cavalièrement la cour pour se retirer dans son gouvernement de Blaye, où il demeura sagement jusqu'à la mort du cardinal. C'est de ce père, âgé de 68 ans et remarié en seconde noce avec Charlotte de l'Aubespine, femme instruite et distinguée, que naquit notre écrivain. L'influence de son père, grand seigneur jusqu'au bout des ongles, se fit évidemment sentir sur le jeune homme qui, dès sa plus tendre enfance, n'avait pas de plus grande joie que d'écouter le vieux duc lui conter les récits de l'ancienne cour. De bonne heure, constate Sainte-Beuve, il dut lui sembler qu'il n'y avait rien de si beau que de se ressouvenir. Malgré ses tendances si marquées pour le métier d'écrivain, le jeune duc, de par sa situation, ne pouvait être que militaire. Ses études furent donc dirigées dans ce sens, et à 15 ans, il entraîne dans le corps des pages de Louis XIV, qui remarqua son habileté à lui présenter son cheval à la chasse, et son talent de joueur de trompe. C'était plus qu'il n'en fallait pour lancer un gentilhomme dans le métier des armes. Aussi, à 18 ans, nous retrouvons le jeune duc capitaine des mousquetaires gris. Il faisait ses premières armes au siège de Namur, où, à la suite de sa brillante conduite, il recevait un régiment. Cette carrière militaire, qui s'annonçait si favorablement, s'arrêta pourtant brusquement, et Saint-Simon ne put dépasser le grade de maître de camp. Le terrible petit duc n'était pas homme à supporter, sans rien dire, les passe-droits et les injustices. Non seulement il avait de son mérite une excellente opinion, mais surtout il était imbu des idées de naissance, de préséance et des droits que son titre de duc et père lui conférait. Cette marotte, qu'il conserva jusqu'à sa mort, fut sa principale faiblesse et contribua à fausser son jugement. Par elle, il prêta maintes fois le flanc au ridicule. Ce fut en 1694, après avoir lu, avec un plaisir extrême, les récits du maréchal de Bassompierre, qu'il prit la résolution de commencer lui aussi ses mémoires. Il devait mettre 60 ans à les poursuivre sans défaillance et à les parachever. Cette décision prise, il voulut être tout à fait libre et songea à démissionner, d'autant qu'il estimait qu'on ne lui donnait pas l'avancement auquel il avait droit. Désireux de se faire confirmer cette opinion, il réunit une sorte de conseil d'État composé de 3 maréchaux et de 3 hommes de cour. Ceux-ci déclarèrent qu'un duc et père comme il l'était, et ayant femme et enfant, ne pouvait servir à l'armée comme maître de camp, alors qu'on y voyait tant de gens différents de ce qu'il était, tous avec des emplois et des régiments. Fort de cette consultation, il envoya sa démission à Louis XIV, qui en fut irrité et qui le marqua nettement à l'officier dans la première entrevue qu'il eut avec lui, entrevue dont nous trouvons naturellement dans les mémoires un piquant récit. Voici donc notre jeune duc en disgrâce, mais, ajoute-t-il, avec cette superbe, qui était la caractéristique de son caractère, une disgrâce qui ne pouvait être complète, car le roi lui-même ne pouvait songer à se priver des services d'un duc et père qui n'avait pas démérité. Et en effet, le terrible mot de disgrâce, qui dans ce monde de courtisans signifiait le comble de l'infortune, ne sembla pas affecter le moins du monde le duc de Saint-Simon. Il conserva son appartement à Versailles, resta intimement lié avec plusieurs ministres d'État, et libre désormais, lâché en pleine jeunesse au milieu de ce monde, dont il pouvait à loisir observer les manœuvres, il commença sa véritable carrière, que Villemain qualifia si spirituellement d'écrivain posthume. Dans ce Versailles où j'écris, j'évoque facilement sur les dalles de la cour de marbre ou dans l'œil de bœuf la silhouette menue, mais importante, de ce petit personnage remuant, mystérieux, échauffé, toujours affairé dans des confidences et des tête-à-tête. Il était, selon l'opinion du maréchal de Belle-Île, amusant quelquefois, mais le plus souvent intempestif et incommode. Il est facile de comprendre que ses affectations d'indépendance, si peu habituelles à la cour, lui suscitèrent des ennemis. Les envieux et ceux qui voulaient lui nuire y arrivaient de la façon la plus certaine, en le louant exagérément, en le faisant passer pour un original, dont la hauteur et la liberté de parole rendaient impossible qu'on lui confiât la moindre fonction. En lisant ses fameux mémoires, on n'a pas de peine à se figurer l'allure persifleuse que devait avoir, malgré lui, l'homme qui ménageait à ses contemporains, à ses pairs, la terrible surprise de ses innombrables petits cahiers. Il cherchait évidemment à demeurer froid et impénétrable, mais cette attitude ne devait pas aller sans quelques détentes, sans quelques indiscrétions, sans quelques lectures fragmentaires des volumineux dossiers faits sous le sceau du secret à un ami à l'issue d'un souper. En réalité, on savait. De là, cette auréole de crainte respectueuse, mais aussi de haine, qui entourait le terrible petit duc. Parmi ses ennemis, il faut citer en première ligne Madame de Maintenon, qui éprouvait pour Saint-Simon une antipathie de nature, qu'elle ne chercha pas d'ailleurs à cacher jusqu'à sa mort. Elle pressentait sans doute les duretés dont devait l'accabler l'écrivain dans ses mémoires. Et jamais elle ne cessa de lui être contraire. Ce fut elle qui s'opposa à ce que le roi lui confia l'ambassade de Rome qu'il fut si près d'avoir. À la place de cette ambassade, quelques mois plus tard, le duc était convoqué en audience secrète dans le cabinet du roi, qui prétendait mettre cette fois le jeune seigneur à la raison, mais Saint-Simon était de ceux qui ne courbent pas la tête même devant Louis XIV. D'accusé, il se posa en accusateur et se plaignit que ses ennemis le desservaient auprès du roi. « Eh, monsieur, lui répondit Louis XIV, c'est qu'aussi vous parlez trop dans ma cour, vous blâmez tout le monde, il est donc naturel qu'on parle aussi contre vous. Il faut tenir votre langue, duc. » On comprend avec quelle rage contenue ce seigneur orgueilleux devait recevoir de semblables semences, mais il tenait sa vengeance et le soir, dans le silence de sa chambre bien close, il distillait son fiel de sa petite écriture fine et serrée qui noircissait inlassablement les 3000 pages de son manuscrit. Après avoir connu la défaveur royale, la cabale de ses ennemis, Saint-Simon, vers avril 1711, reprit singulièrement du poil, ainsi qu'on le dit en style de vénerie. Non seulement il ne parlait plus de quitter Versailles, comme il avait été tout près de le faire, mais il avait retrouvé les faveurs du roi, grâce à l'amitié que lui marquait le duc de Bourgogne, devenu dauphin et héritier présomptif. Sa femme, pendant ce temps, aimée et honorée de tous, était devenue dame d'honneur de la duchesse de Berry, et lui-même s'était haussé à une sorte de situation qui le faisait considérer comme le confident, presque le précepteur du dauphin auquel il prétendait faire appliquer son système politique. Quel était ce système? Il faut d'abord le dégager de ces fadaises d'étiquette qui constituent la faiblesse de toute l'œuvre de Saint-Simon. Mais, ceci une fois écarté, on est forcé de constater dans les idées exprimées par ce grand rêveur une certaine grandeur. Il avait senti la faiblesse de la France après le règne de Louis XIV. Tout avait été abaissé, nivelé autour du roi, seul grand et agissant. Certes, Saint-Simon n'allait pas jusqu'à songer au peuple qu'il ignorait, qui n'existait pas pour lui. Mais il souffrait de voir la noblesse et même la bourgeoisie annihilée par cette politique royale. Il prétendait la relever, cette noblesse, la restaurer dans ses anciens emplois en lui rendant initiative et responsabilité. On voit que ces fameuses réformes étaient en réalité bien anodines et cependant, elles supprimaient le côté servile de la noblesse française qui, sous Louis XIV, attendait tout de la faveur royale. Malheureusement, la mort subite du duc de Bourgogne vint enlever à Saint-Simon ses nouvelles illusions. En effet, le régent, le duc d'Orléans, n'était pas homme à se lancer dans un plan de réforme. Il devait se laisser aller, comme beaucoup de ministres, à la vie du jour le jour et aux impulsions de sa nature assoiffée de plaisir. Mais, tout en ne suivant aucune des propositions de Saint-Simon, Philippe d'Orléans le nomma membre du conseil de régence et fit ainsi de lui un des principaux personnages du royaume. Le terrible petit duc, ne se contentant pas de ses avantages, Le régent, pour se débarrasser de cet homme qu'il disait immuable dans ses opinions comme Dieu, lui donna l'ambassade d'Espagne. Saint-Simon partit donc pour Madrid, mais là encore, sa manie de titres et de noblesse l'absorba au point qu'il passa son temps à rédiger un mémoire dans lequel il établissait que la grandesse était finie en Espagne. Cette opinion ne l'empêcha pas de la solliciter pour lui en même temps que la toison d'or pour son fils. Ayant obtenu tout cela, il rentre en France, mais la mort du régent lui fit comprendre que son heure était cette fois définitivement passée. Il ne devait pas compter sur la politique craintive de Fleury, qui fit entendre à Madame de Saint-Simon qu'on verrait volontiers son mari ailleurs qu'à Versailles. Le terrible petit duc se le tint pour dit. Il renonça à la cour et se retira dans ses terres à la Ferté-Vidame et dans son hôtel de la rue de Grenelle. La besogne ne lui manquait pas pour occuper ses loisirs, puisqu'il restait à terminer et à mettre en ordre ses 1500 cahiers de notes. Il occupa cette besogne les 10 dernières années de sa vie et mourut paisiblement le 2 mars 1755, âgé de 80 ans, en conservant jusqu'au bout ses illusions sur l'avenir de la noblesse et sans entendre les premiers piétinements du populaire qui commençait pourtant à venir gratter aux portes des palais. Ses fameux mémoires connurent après sa mort des destinées romanesques. Sortis des mains de la famille, ils devinrent des espèces de prisonniers d'État, car longtemps les gouvernements qui se sont succédés ont empêché leur publication. Ce n'est qu'à partir de 1784 qu'on commença à les faire paraître, mais timidement et par fragments. Tout le monde s'accorda à trouver cela mal écrit, mais grouillant de vie et prodigieusement intéressant. Mal écrit, voire. Saint-Simon avait évidemment sa phrase et son style à lui. Quant à l'intérêt de cette accumulation de documents, il est indiscutable et constitue un élément d'information tel que Sainte-Beuve disait « Toute époque qui n'a pas connu Saint-Simon nous reste inconnue. » Ainsi s'achève Saint-Simon, le terrible petit duc, par Jules Chancel.